Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Elle.
Elle nous reçoit dans son bureau, l'hôtel de la Sée, qui jouxte l'Assemblée nationale. Une vue qui embrasse la capitale telle qu'on ne la voit jamais. La Seine, le pont de la Concorde illuminé à 7 heures, et derrière la fameuse place et son obélisque. Yael Braun-Pivet, première femme à diriger l'Assemblée nationale, quatrième personnage de l'État, demande un thé et quelque chose à grignoter. La fatigue, dit-elle. Il faut se méfier, ici tout le monde prend 5 kilos en une année. Heureusement, être mère de 5 enfants et présider 577 députés, c'est vraisemblablement du sport. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. D'abord avocate, puis responsable de Resto du Cœur, Yael Braun-Pivet a eu plusieurs vies avant d'entrer en politique. Sa force, elle la tient des femmes de sa famille, une grand-mère qui a fui l'Allemagne nazie, une mère placée à la DAS, mais aussi des voyages qui l'ont obligée à se réformer et habituée à se sentir partout, à sa place. Je suis Marion Ruggieri. Bienvenue dans Les Vagues, un podcast de Elle. Yael Braun-Pivet, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on monte pour la première fois au perchoir, quand on est la première femme présidente de l'Assemblée nationale de l'histoire de France, le quatrième personnage de l'État?
C'est un moment d'une intensité inouïe. C'est la première séance de l'Assemblée nationale après l'élection législative. Et donc les parlementaires sont dans l'hémicycle assis par ordre alphabétique, donc on n'est pas par groupe politique. On a procédé à l'élection et le doyen d'âge prononce les résultats de l'élection et dit mon nom en disant « est élu donc président de l'Assemblée nationale » et il m'invite à venir au perchoir. Et là, vous avez un hémicycle qui est debout, qui vous applaudit, donc je vois ma famille, je me lève, je descends les travées pour rejoindre l'hémicycle, pour le perchoir, et puis après monter. Ça n'est pas instantané, il y a ces secondes où vous réalisez que vous avez fait quelque chose d'assez incroyable, parce que c'est le résultat d'une campagne électorale, d'une... Vous voyez, c'est un aboutissement, et en même temps, c'est le début de quelque chose, et vous avez un moment un peu suspendu, comme ça, dans le temps, et effectivement, vous montez au perchoir, et puis vous êtes debout, et là, vous contemplez l'Assemblée nationale, qui est toujours debout, qui est toujours en train de vous applaudir. Et en face de moi, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai mes parents que je vois dans les tribunes. C'est une émotion d'une intensité incroyable.
Vous pensez à qui, à quoi, à un moment précis, à cet instant?
En fait, je pense, et je le dis dans mon discours, je pense beaucoup à ma famille, surtout à mes grands-parents paternels, qui sont les seuls que j'ai connus. Je n'ai jamais connu mes grands-parents maternels. Et à mes grands-parents paternels, qui m'ont beaucoup choyée, que j'ai beaucoup aimées et qui ont eu un parcours d'immigration. Et d'immigration, d'intégration, des artisans et donc des gens très modestes. Et en fait, je pense à eux parce que je me dis, c'est toute l'histoire de la France, c'est toute l'histoire de la République de pouvoir permettre à la petite fille de ces personnes-là d'être aujourd'hui présidente de l'Assemblée nationale. Et c'est à cette histoire-là, cette ascension, ce parcours français que je pense en me disant, mais c'est aussi un signal qu'on envoie. Au-delà du fait d'élire une femme, c'est aussi ce signal d'intégration et de capacité d'accéder en France aujourd'hui aux plus hautes fonctions sans être fils d'eux, sans être issu de tel ou tel milieu. Ça montre aussi que c'est possible.
Est-ce que vous vous imaginiez un jour faire de la politique ?
J'en avais envie parce que j'ai toujours été intéressée par la politique, mais je n'imaginais pas forcément en faire et certainement pas au niveau où je suis actuellement.
Quel a été le déclic ? Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule ?
Alors, il y a un double déclic, en fait. Le premier déclic, c'est mon engagement au Resto du Cœur, où j'ai découvert l'effet d'une action collective, l'effet d'un engagement et l'utilité qu'on pouvait avoir par son action et aussi par son leadership, sa capacité à agir. Et en fait, le bienfait que ça faisait d'agir pour les autres. C'est finalement toujours assez égoïste. On dit on agit pour les autres, on est utile, on les aide. Mais en même temps, ça vous remplit. Vous vous sentez utile, vous vous sentez bien, en fait. Donc ça, je l'ai découvert pendant plusieurs années au Resto du Cœur. Et c'est vrai que j'avais envie de m'engager davantage. Et au moment où j'avais envie de m'engager davantage, j'ai entendu à plusieurs reprises des interviews d'Emmanuel Macron, qui était alors ministre. Et quand il a lancé En Marche, ça a résonné en moi et ça correspondait à ce moment où j'avais envie de m'engager, où j'avais découvert ce sens de l'engagement et cette utilité pour les autres. Et ça a matché avec cette parole politique et ça a été le moment où je me suis engagée en politique.
Revenons un peu en arrière. Pouvez-vous nous dire ce que vous évoque, s'il vous évoque quelque chose, le mot « respect » ?
C'est « rutspe », c'est « culotté », c'est « gonflé ». En yiddish, et ma grand-mère utilisait souvent ce mot pour moi, parce que je n'ai jamais eu peur de rien. Je suis une fonceuse, et je pense que ce que j'ai fait en politique, c'est assez culotté, en fait.
Quel genre d'enfant étiez-vous ?
Très turbulente, très espiègle, très libre. Assez indépendante, assez obstinée, têtue même. Très têtue.
Ça se matérialisait comment ? Je sens à votre regard que vous pensez à quelque chose de précis.
Oui, je pense à une histoire toute simple, mais je devais avoir, 5 ans, 6 ans. Et en fait, j'allais chez une tante et je ne sais pas pourquoi, en arrivant chez elle avec ma famille, j'ai refusé de lui dire bonjour. Et cette tante m'a dit, mais écoute, si tu ne me dis pas bonjour, tu ne rentres pas chez moi. Je ne suis jamais rentrée chez elle. Donc ma famille est rentrée chez elle, je suis restée dehors devant la porte. Et quand ma famille est repartie, je suis repartie avec eux. Mais je ne suis pas rentrée parce que j'étais têtue. Et heureusement, j'ai changé. Mais j'étais une petite fille qui avait un certain caractère.
Vous aviez des femmes fortes dans votre entourage, des modèles ?
Ma grand-mère et ma mère. Des femmes fortes, des femmes de caractère aussi, des femmes qui, chacune avec des histoires difficiles, douloureuses, et qui avaient réussi à surmonter justement grâce à leur caractère, surtout ma maman, des épreuves assez dures.
Vous pouvez nous en dire plus sur votre mère ?
Alors, ma mère était une enfant qui est née à Paris, dans un milieu aussi très modeste, d'une mère bretonne et d'un père algérien. Et elle a été élevée pendant quelques années en Algérie, dans un orphelinat. Elle est revenue en France quand elle était un peu avant 10 ans et a vécu après avec sa mère et son beau-père, puisque son père était décédé en Algérie, et très rapidement a été une enfant battue par ses beaux-pères successifs, et donc a été à plusieurs reprises hospitalisée du fait des coups reçus, avec des plaintes, etc., jusqu'au moment où elle a été définitivement retirée et confiée à l'aide sociale à l'enfance, donc à l'époque la DAS, et après donc a complètement coupé les ponts avec sa mère. Et donc ma mère a montré une force de caractère inouïe, parce que d'une part, elle a à chaque fois, étant enfant, été capable de porter plainte contre son beau-père, et donc de pouvoir réussir à s'extirper de ces situations. Et puis après, a été capable de se construire. On sait que c'est très difficile pour les enfants battus de se construire, de réussir à mener des vies de famille, des vies apaisées. Et elle a réussi à le faire en ayant effectivement cette force de caractère, d'être capable de tenir bon et de tenir le cap et de se débarrasser de ce passé qui était très lourd à porter.
Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné ?
Elle m'a enseigné d'être capable de faire mes choix, de ne pas me faire imposer ma vie, de ne pas me faire imposer des choix qui ne seraient pas les miens. Elle m'a appris à résister, elle m'a appris à persévérer, à ne jamais abandonner, à m'accrocher, quoi qu'il se passe, et à garder la tête haute.
Et votre grand-mère paternelle, que vous évoquiez il y a quelques instants.
Et ma grand-mère paternelle, ce qu'elle m'a... Alors elle a un
c'est
parcours...
C'est un autre parcours.
C'est un autre parcours. Elle était jeune juive allemande, née à Munich. Elle était, elle, championne de natation de Munich. Et il quitte l'Allemagne avec sa famille, avec une valise, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et ils arrivent, ils s'installent en France. Et ma grand-mère, c'est la résistante, c'est celle qui, pendant la guerre, a porté sa famille à bout de bras, s'est occupée de récupérer les papiers pour rentrer en zone libre. C'est celle qui accouche de mon papa dans le maquis, en Haute-Savoie, au milieu de l'hiver. C'est une femme pareille qui ne s'est jamais plainte. Et qui m'a, elle, appris la tolérance. Elle m'a toujours dit, il faut accepter les gens comme ils sont, et pas tels que tu voudrais qu'ils soient. Elle a toujours eu un regard bienveillant sur le monde, et sur chacun, et une grande confiance dans le genre humain. Et donc, elle m'a appris voilà, cette confiance et cette tolérance.
Adolescente, vous êtes élève au lycée Janson de Sailly, à Paris, dans le 16e arrondissement, où vous rencontrez un certain Vianney Pivet. Est-ce que c'est le coup de foudre immédiat ?
Non, pas vraiment, mais on se rencontre tellement jeune. Quand on se rencontre, nous sommes en seconde, donc on a 15 ans.
15 ans, 15, 16 ans.
Et donc c'est très jeune, on tombe très vite amoureux, et puis après on vit une histoire d'adolescent.
Il paraît que vous portez des Doc Martens et qu'il a la coiffure de Robert Smith, le leader des Cure.
Ouais, c'est vrai. Non, on était très turbulents. Moi, j'étais une jeune lycéenne et collégienne très turbulente, comme beaucoup d'adolescents aujourd'hui. Je ne m'intéressais pas beaucoup à l'école et je préférais m'amuser, aller à des concerts, faire la fête. Et puis on faisait un peu les 400 coups avec Vianney et puis avec notre bande de copains. Mais c'est des très belles années. On a des très bons souvenirs de ces moments-là. C'est ce qui me donne beaucoup d'indulgence aussi avec mes enfants.
Avec vos propres enfants.
Exactement.
À l'époque, vous ne rêvez que d'une chose, devenir avocate. Mm. Ce sera d'ailleurs votre premier métier. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette vocation précoce ?
Alors, il y a une histoire qui est la fascination que j'avais quand j'étais jeune pour le livre Le Pullover Rouge, qui racontait l'histoire de Christian Ranucci et qui m'avait fascinée. La couverture, d'abord, m'avait interpellée. Et puis, je n'avais pas le droit de le lire. Et puis, j'ai forcément pris la liberté de le faire et j'ai trouvé ce livre absolument passionnant et je pense que c'est la naissance de mon envie d'être avocate parce que évidemment dans le milieu dans lequel j'évoluais il n'y avait évidemment pas d'avocat et personne dans le monde du droit parce qu'il n'y avait personne dans le monde des études et puis il y a ce côté d'une profession libérale qui aussi est une profession indépendante. Et ça fait partie des enseignements que ma mère m'avait transmis. C'était faire des études pour ne dépendre de personne et surtout, prends une profession qui te permettra de faire tous les choix que tu souhaiteras.
Pourquoi avoir raccroché alors, après plusieurs années, dont 4 ans, auprès d'Hervé Temim, célèbre pénaliste, hélas disparu ?
Pourquoi avoir raccroché ? Parce que j'ai été submergée par la maternité, tout simplement. En fait, moi, j'ai été élevée pour être une femme active, libre, indépendante, pour travailler, pour mener une carrière. Et quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai été submergée par le bonheur d'être mère et par le lien que j'ai créé avec mon enfant et qu'il a créé avec moi. Et en fait, très vite, je me suis sentie très inconfortable dans le fait de mener une carrière tambour battant et d'être mère. Beaucoup de circonstances ont fait que je me suis dit, je vais arrêter de travailler et on va partir à l'étranger. Mais parce que je me suis découverte mère.
Vous entamez ensuite une deuxième vie, puisqu'avec votre mari, vous partez vivre 9 ans. D'abord en Asie,
voilà. Et
à Taïwan, au Japon,
voilà, exactement.
Puis au Portugal.
Tout à fait.
Quel souvenir vous gardez de ces années ? Un lieu, une habitude, une odeur, un paysage ?
J'avais l'impression un peu d'être comme un escargot ou comme une tortue, c'est-à-dire que vous partez à l'autre bout du monde avec votre maison sur le dos, avec votre mari, avec les enfants, et c'est pas pareil d'habiter comme ça à l'étranger et de voyager en vacances à l'étranger, parce que tout d'un coup, vous arrivez à Taipei, puis vous réveillez le lendemain matin, vous dites « maintenant c'est chez moi ». Je trouve qu'on a appris beaucoup sur nous-mêmes, le fait de pouvoir se dire c'est chez moi à Taipei, c'est chez moi à Tokyo, c'est chez moi à Lisbonne. Ça apprend à s'adapter à tout. Ça apprend à résister à tout aussi, parce qu'on vit des choses pas forcément très rigolotes. Ça secoue d'habiter aussi loin avec des enfants aussi petits. Et puis ça, c'est se remettre en cause, d'arrêter de travailler, de trouver une autre place, etc. Donc mais ça m'a appris à m'adapter, peut-être beaucoup plus que je ne pouvais le faire avant. Et puis, ça m'a aussi appris que on pouvait faire très différemment et tout aussi bien. Qu'il n'y avait pas une façon de faire. Vous savez, parfois, on peut se dire, c'est nous qui, notre façon d'être, notre façon de faire, c'est la seule qui vaille. Ou alors, quand on est un peu vaniteux, c'est la meilleure qui vaille. Et en fait, quand on habite à l'étranger, quand on habite loin, dans des pays de culture extrêmement éloignée de la nôtre, on se rend compte qu'il y a plein de façons de faire différentes, plein de façons de vivre différentes, d'organisations sociales différentes, mais qui fonctionnent tout aussi bien, voire mieux, et qui procurent aussi du plaisir. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de vous dézoomer, de vous décentrer. Et ça, c'est peut-être ce que j'ai retenu de plus intéressant pour moi, ce qui m'a le plus enrichi.
Un enseignement concret, par exemple ?
Mais en fait, c'est le fait de s'adapter partout, c'est très concret. C'est très concret parce que justement, quand on parle d'être à sa place, en fait, vous apprenez à vous sentir partout à votre place. Quel que soit le lieu, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, vous apprenez à vous adapter et donc à vous sentir bien.
De retour en France, vous pilotez une antenne des Restos du Cœur, vous l'évoquiez en tout début d'interview, le centre de Chantoul-les-Vignes, puis celui de Sartrouville. Mais ça, c'était avant d'entendre à la radio, non pas l'appel du 18 juin, mais l'appel d'Emmanuel Macron, alors ministre, en 2016. Vous vous en souvenez de ce moment précis? Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de là, vous entamez une troisième vie, la politique?
Oui et non, parce que déjà, je ne l'entame pas tout de suite. Parce que moi, quand j'entends l'appel d'Emmanuel Macron, quand je l'entends lancer en marche, je ne me dis pas à ce moment-là que ça va être ma troisième vie. Parce que je le reçois comme militante. Et je me dis simplement, je vais rejoindre ce mouvement pour militer, pour participer à des réunions, pour tracter, pour afficher. En fait, pour moi, il n'y a pas de plan, je ne me projette pas. J'ai juste cet enthousiasme. Moi, je suis bien dans mon engagement au Resto du Cœur et je suis dans le concret. Et donc, voilà, je milite tranquillement avec quand même beaucoup de passion, mais sans faire de plan de carrière, sans faire de plan sur la comète. Et donc, je ne me dis pas à ce moment-là, c'est une troisième carrière qui commence. Ça viendra après.
Ça vient quand?
Ça vient réellement au moment de l'élection. Donc, en juin 2017, quand je suis élue et que je viens à l'Assemblée nationale. Mais en fait, l'engagement associatif ou l'engagement politique, c'est le même engagement. C'est un engagement pour les autres. C'est le fait de se sentir concerné et se dire qu'on a la capacité d'agir. Et j'ai le sentiment d'être aussi utile. En fait, ça peut vous paraître absurde, mais pour moi, je suis aussi utile dans mon centre des Restos du Cœur à Sartrouville qu'ici à l'Assemblée nationale.
On dit le milieu de la politique misogyne, assez sexiste. Est-ce que c'est toujours aussi vrai? Et qu'est-ce qui est le plus dur quand on est une femme au pouvoir?
Alors moi, j'ai rarement eu à subir des attaques sexistes parce que j'ai eu, dès que j'ai été élue députée, j'ai tout de suite occupé un poste à responsabilité en devenant présidente de la commission des lois, en plus une commission très qui porte sur du régalien, donc qui porte sur des sujets de sécurité notamment, et la légitimité de l'élection à une fonction importante et une fonction régalienne est un peu un rempart face à des attaques sexistes. Après, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui le relatent et qui le relatent encore aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas naïve, je sais que ça existe, je sais et je le vois, le monde politique reste un monde d'hommes et le monde du pouvoir en France reste un monde d'hommes, que ce soit le monde politique, le monde institutionnel, le monde économique, le monde des médias. On voit bien que le monde associatif, les patrons de fédérations, etc. On voit bien quand même qu'en France, le pouvoir est plutôt masculin que féminin. Donc on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et j'ai bien conscience, et c'est aussi ça que j'ai à l'esprit quand je deviens présidente de l'Assemblée nationale, j'ai bien conscience de faire partie de ces pionnières qui ont brisé un plafond de verre et donc qui vont permettre à d'autres d'en briser d'autres. Donc j'ai une vraie responsabilité en la matière.
Vous partagez les tâches avec votre mari? Chacun sa fonction ou ses brouillons?
Alors, depuis que je suis présidente de l'Assemblée nationale, c'est tout lui. Je ne fais plus rien. Sauf quelques petits trucs à la maison. Mais c'est lui, en fait, qui a pris la charge mentale. Donc, j'ai complètement délégué la charge mentale depuis 18 mois. Et c'est un vrai bonheur.
Et lui n'en prend pas ombrage?
Du tout. Du tout. Après, il y a une répartition des tâches qui s'est effectuée dans le temps, en fait. Moi, j'ai pris ma part au moment où nous étions à l'étranger pour qu'il puisse s'épanouir dans la carrière professionnelle qu'il avait souhaitée. Je me suis occupée des enfants. Je prenais toute la charge mentale et plus encore. Et j'ai arrêté de travailler. Et donc, mais ça s'est fait très naturellement. C'est juste un juste retour des choses. Maintenant, moi, j'ai une fonction qui fait que je n'ai plus le temps ni la capacité d'assumer un certain nombre de choses à la maison. Et donc, ça s'est fait. Mais naturellement, nous n'en avons jamais discuté.
Qu'est-ce qui vous a valu le plus d'injures? Est-ce que c'est votre genre? Est-ce que ce sont vos origines? Est-ce que c'est votre religion? Est-ce qu'il y aurait un exemple qui vous aurait particulièrement marqué?
C'est la religion. Indéniablement, c'est la religion. C'est la religion. Très rapidement, je reçois des lettres de menaces, des lettres d'injures antisémites, des attaques, des étoiles jaunes. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai découvert en politique. Avant de faire de la politique, je n'avais pas été victime d'antisémitisme. C'est quand j'acquiers de la visibilité, quand j'acquiers du pouvoir, ça va ensemble. Et donc c'est ça qui est le plus choquant, qui est le plus blessant. On est en France, on est en 2023, et en fait, ça ne devrait plus exister. Et surtout, moi, je suis issue d'une histoire, d'une famille qui a fui le nazisme, qui a fui l'antisémitisme et qui s'est réfugiée en France parce que la France était un pays qui accordait cette protection malgré toute son histoire. Et ils ont trouvé refuge ici et la France est devenue leur patrie. Et donc, le fait d'être aujourd'hui victime d'antisémitisme dans ce pays-là, c'est encore plus choquant et encore plus blessant.
Pour finir, Yael Braun-Pivet, forte de toutes ces vies et d'autres qui s'annoncent, quel est le jour où vous êtes sentie à votre place pour la première fois ?
Je pense que pour la première fois, vraiment pleinement à ma place, c'est quand j'ai prêté serment. Quand je suis dans la première chambre de la cour d'appel de Paris, qui est une salle d'audience absolument extraordinaire, que je suis enfin porteuse de cette robe d'avocat dont j'avais tant rêvé. Et c'est ma grand-mère qui m'offre ma robe. On a cousu à l'intérieur la petite marque que mon grand-père mettait sur les costumes qu'il fabriquait et qui marquait, il y avait son nom, donc Kallmann Braun, à la coupe parfaite. C'est cousu dans ma robe. Je suis dans ma robe. Mes parents sont là, ma grand-mère est là, mon futur mari est là. J'ai des amis qui sont là. Et je prête serment. Je dis, je le jure. Et je suis devenue avocate. Et ça, c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire parce que c'est l'aboutissement pour moi d'un rêve. Mais c'est aussi cette fonction, c'est cette notabilité qui est acquise. La fierté dans le regard de ma maman qui n'avait pas fait d'études, de ma grand-mère qui n'avait pas fait d'études et qui était impressionnée toutes les deux par le lieu qui est magnifique et qui est aussi pesant. Et dans ce lieu, moi, en tant qu'avocate, je suis à ma place.
Yael Braun-Pivet, merci. Merci infiniment.
Merci à vous.
Je suis Marion Ruggieri. Vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Michael Lio. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous. À très vite.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.